17h à Paris, 6h en temps universel.
Julien Coquel-Roem.
RFI Matin, deuxième heure et le journal pour commencer. Bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une, Haïti est à la veille d'un plongeon vertigineux.
Dans une incertitude politique abyssale, alors que le mandat du Conseil présidentiel de transition arrivera à son terme demain, pendant 22 mois, cette instance n'aura jamais su rétablir de stabilité institutionnelle et sécuritaire. Les gangs contrôlent encore de larges portions de la capitale. Port-au-Prince, les affrontements avec les forces de l'ordre sont quotidiens. RFI sera en édition spéciale à partir de 7h10, temps universel. Au sommaire aussi ce matin, l'appel iranien pour un respect mutuel. Lors des négociations programmées aujourd'hui à Oman avec les États-Unis, l'armée américaine reste déployée massivement dans le golfe Persique et menace toujours d'intervention en cas d'échec des pourparlers. On vous présente les enjeux de ces discussions dans ce journal. Et puis le nord de l'Italie s'apprête à accueillir le gratin des skieurs, patineurs et autres hockeyeurs du monde entier. Les Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina s'ouvre officiellement aujourd'hui.
Un désastre sécuritaire et de très minces espoirs d'embellie en Haïti.
Mais c'est le bilan que l'on peut tirer de 22 mois de conseil présidentiel de transition. Son mandat arrivera à son terme demain et à cette occasion, RFI organise une journée spéciale pour raconter la vie sur place, notamment marquée par l'emprise des gangs qui contrôlent toujours 80% de Port-au-Prince. Plus de 10 000 personnes ont été tuées depuis avril 2024 selon les chiffres de l'ONU. Ces dernières semaines, les forces de l'ordre soutenues par des mercenaires et une mission approuvée justement par les Nations Unies ont multiplié les opérations dans la capitale haïtienne. Nos envoyés spéciaux Achim Lippold et Justine Fontaine ont suivi l'une de ces patrouilles de police.
Rendez-vous est donné sur la place du Champ de Mars. Il y a quelques années encore, c'était le cœur de la capitale.
Les enfants jouaient beaucoup ici.
Ce policier, Chandler, nous accompagne avec trois de ses collègues dans un blindé tout neuf, offert par les États-Unis il y a un mois. Portail éventré et criblé de balles, murs effondrés, maisons pillées et brûlées. Les rues où nous passons sont presque totalement désertes et ressemblent à une zone de guerre.
Moi, j'habitais un petit peu plus loin, jusqu'à l'arrivée de Bandi.
Il y a un peu plus d'un an, il a dû fuir avec toute sa famille et a perdu sa maison. Depuis décembre, les forces de l'ordre ont fait reculer les gangs par endroits. 700 hommes et femmes ont aussi rejoint le mois dernier les rangs de la police.
Tant qu'on est nombreux, le travail devient un peu plus facile à faire.
Mais les groupes armés ne sont pas totalement partis du centre-ville. Des hommes lancent vers nous des cocktails Molotov. Un policier tire depuis notre blindé pour sortir de la zone. Au coin de l'avenue, un bus plein à craquer qui fait la route vers des quartiers contrôlés par les gangs s'est arrêté le temps que les tirs cessent. Ces passagers sont obligés de traverser la zone tous les jours et risquent de recevoir des balles perdues ou de subir des exactions de la part des groupes armés ou même des forces de l'ordre. Achim Lippold, Justine Fontaine, Port-au-Prince, RFI.
La direction de la police haïtienne n'a pas souhaité s'exprimer au micro de RFI. D'après l'ONG haïtienne Combit, plus de 50 civils ont été tués lors des opérations de police à Port-au-Prince rien que pendant la première quinzaine du mois de janvier. La fin annoncée du mandat du Conseil présidentiel en Haïti, elle a provoqué une forte agitation politique ces derniers jours, avec notamment plusieurs tentatives de renversement du Premier ministre. François-Damien Bourgerie, les États-Unis surveillent aussi la situation de très près.
Les trois navires de guerre états-uniens dans la baie de Port-au-Prince en disent long sur l'atmosphère qui règne en Haïti, avec des gangs qui contrôlent 80% de la capitale et qui renforcent leur présence dans plusieurs régions. Mais la crise est aussi politique. Un nouveau calendrier électoral a été adopté en décembre, des élections générales avec un premier tour le 30 août 2026 et un second le 6 décembre. En attendant, l'incertitude est totale sur la durée et la forme que prendra la nouvelle transition, et la lutte d'influence bat son plein. À quelques jours de la fin de leur mandat, 5 des 7 membres du CPT ont appelé à révoquer le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Le président de la transition, Laurent Saint-Cyr, a refusé de donner suite et Washington a sanctionné 5 conseillers accusés de collusion avec les gangs. Cette semaine, 3 membres de ce conseil ont multiplié les rendez-vous politiques pour tenter de préparer la suite. Mais le soutien de l'administration Trump au Premier ministre est indéfectible, et à ceux qui chercheraient à le renverser, les 3 navires de guerre qui mouillent dans la baie de Port-au-Prince Port-au-Prince sonne comme un nouvel avertissement.
François-Damien Bourgerie. Et pour poursuivre l'analyse de la situation en Haïti, RFI sera donc en édition spéciale à partir de 7h10, temps universel. Dans le centre de l'Ukraine, un couple a été tué cette nuit dans une frappe de drone sur leur maison. Ça s'est passé dans la région de Zaporijjia, selon les autorités militaires locales. Un nouveau bombardement qui survient au lendemain de discussions entre délégations russes, ukrainiennes et américaines à Abu Dhabi. Seul un échange de prisonniers a été conclu, mais pas de règlement sur la question cruciale des territoires ukrainiens convoités par Moscou. De nouvelles tractations doivent se tenir dans les prochaines semaines, selon Kiev, qui n'a pas donné de date précise.
Les États-Unis également à la baguette pour faire plier l'Iran,
qui appelle ce matin, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, au respect mutuel, à l'égalité et à l'intérêt réciproque lors d'une session de négociation à Oman. Elle doit commencer dans une heure environ. La délégation américaine sera conduite par Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump. Après la sanglante répression du mouvement de contestation du mois de janvier, le pouvoir iranien arrive dans une posture délicate à Oman, Nicolas Falaise.
D'un côté, une république islamique affaiblie par une série de revers. Les bombardements israéliens et américains sur les installations nucléaires iraniennes en juin dernier, la chute du régime allié de Bachar el-Assad en Syrie, l'effondrement militaire du Hezbollah libanais. Fragilisé dans la région, l'Iran est défié par la contestation intérieure à laquelle il a répondu par une répression d'une ampleur inédite. En face, les États-Unis de Donald Trump qui ont massé de spectaculaires moyens militaires dans la région. Pression maximale pour exigence radicale. Selon Washington, l'Iran doit renoncer à enrichir de l'uranium, réduire drastiquement son arsenal de missiles, cesser d'armer ses alliés dans la région et mettre fin à la répression sur son sol. Officiellement, Téhéran ne veut parler que de son programme nucléaire, ce qui dans la région alimente la crainte d'une opération militaire américaine, tout comme les scénarios d'une riposte iranienne sur les bases militaires américaines au Moyen-Orient ou en direction d'Israël.
Explication de Nicolas Falaise. Les États-Unis qui ont annoncé avoir tué 2 personnes dans une nouvelle frappe sur un bateau de narcotrafiquants présumés dans le Pacifique cette nuit. La lutte contre le trafic de drogue qui avait conduit il y a plus d'un mois à l'enlèvement de Nicolas Maduro est mis depuis sous pression le régime de Caracas. Hier soir, le Parlement vénézuélien a voté en première lecture une loi d'amnistie pour les prisonniers politiques. Un texte qui couvre la période allant de 1997 à aujourd'hui. Un événement important pour la paix et la réconciliation nationale, selon les mots de la présidente par intérim Delcy Rodriguez.
Paix et réconciliation, des mots qui résonnaient aussi dans le discours de Félix Tshisekedi hier à Washington.
Le président congolais qui était l'un des invités d'honneur d'un petit déjeuner de prière annuel en ouverture d'un forum réunissant le gouvernement et la société civile, son homologue rwandais Paul Kagame est lui aussi largement revenu sur le conflit dans l'est de la RDC, Lucie Mouillot.
Face aux menaces de sanctions de la communauté internationale, le président rwandais Paul Kagame affirme ne pas céder.
Parfois on se sent étouffé, mais je préfère m'étouffer en défiant ces menaces et en vous disant d'aller en enfer. Vous ne pouvez pas me créer des problèmes, puis venir m'en rendre responsable et ensuite commencer à me menacer. La conversation finit par tourner autour des menaces au lieu de s'attaquer aux problèmes.
Dans son discours, le chef de l'État dénonce une nouvelle fois les menaces posées, selon lui, pour son pays par les FDLR, groupe armé composé à l'origine d'anciens génocidaires, critiquant l'attention portée à la place à la question de la présence de troupes rwandaises sur le territoire congolais.
Si vous répondez non, les mesures défensives que nous avons prises sont considérées comme inexistantes. Si vous répondez oui, ça devient le seul problème au monde dont il faut s'occuper. En disant oui, tous les autres problèmes disparaissent et vous leur facilitez la tâche pour faire porter sur vos épaules l'ensemble des problèmes du Congo.
Répondant aux accusations d'accaparement des ressources minières de la République démocratique du Congo, le président Paul Kagame affirme, je cite, « Si nous étions en RDC pour les minerais, le Rwanda serait 100 fois plus riche. » Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Lui est au pouvoir depuis 40 ans au Congo-Brazzaville et ne compte pas lâcher son fauteuil présidentiel. Denis Sassou Nguesso, 82 ans, a annoncé hier, lors d'un déplacement au nord de Brazzaville, sa candidature pour l'élection présidentielle, élection qui doit avoir lieu le mois prochain.
20 ans après, les Alpes redeviennent le cœur battant des sports d'hiver.
Des Jeux olympiques d'hiver qui retournent en Italie, pile deux décennies après ceux de Turin. Cette année, pendant deux semaines, 2900 athlètes vont participer aux compétitions. Et ce soir, l'événement s'ouvre officiellement avec la cérémonie d'ouverture au stade San Siro de Milan. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Paul.
Vous êtes notre envoyé spécial pour ces JO d'hiver. Christophe, le spectacle se tiendra donc à la fois dans la capitale lombarde, mais aussi simultanément sur quatre autres sites, comme pour rappeler l'éclatement inédit de ces Jeux.
Exactement, un terrain de jeu de 22 000 km² au total, de la Lombardie à la Vénétie, dans le nord de la péninsule. 7 sites, parmi eux Milan pour le hockey sur glace et le patinage, Bormio à l'ouest pour le ski alpin masculin, les épreuves féminines ayant lieu à Cortina à plus de 300 km avec les sports de glisse, le bobsleigh ou la luge, le biathlon à Anterselva près de la frontière autrichienne, l'idée étant de coller le plus possible au principe désormais directeur du Comité international olympique des jeux utilisant au maximum des installations existantes et historiques, c'est le cas à plus de 80% pour cette édition, afin de réduire la facture globale de l'organisation, estimée à plus de 5 milliards d'euros, quitte à gonfler le bilan carbone en transport et à imposer aux participants un gros défi logistique. Le défi de l'organisation, lui, livrer les Jeux à temps, n'est pas encore totalement relevé. La patinoire de hockey sur glace de Milan, déjà inaugurée avec retard il y a moins d'un mois, n'était pas dans un état optimal avant le début du tournoi féminin hier. Beaucoup plus ennuyeux, le téléphérique de Cortina, censé transporter des milliers de spectateurs vers la piste de Tofane, est encore en travaux alors qu'elle devait servir de moyen de désengorgement de la circulation dans cette station très prisée des Dolomites.
Merci beaucoup Christophe Diremzian.
Et puis ce vendredi marque un pas supplémentaire vers les élections municipales du mois prochain en France.
Oui, c'est la date limite aujourd'hui pour s'inscrire sur les listes électorales dans les mairies, et le risque d'être mal ou pas inscrit concerne 10 millions de personnes. Pour les accompagner dans cette démarche, l'ONG Avoter a été créée en 2021 à Paris. Sylvie Coffi a suivi une opération de sensibilisation auprès des étudiants.
C'est de manière ludique, Atitiya Anantaraja de l'ONG a voté à bord d'un groupe d'étudiants.
Est-ce que vous savez ce qui se passe le 15 mars?
C'est les européennes.
Non, c'est les listes.
Sans ça, je ne sais pas. C'est...
ensemble. Dans ma ville, comme chez Léon, les boules sous les néons s'affolent. Ma ligne de vie, je la trace à coups de torche. Dans mes paumes, plus de psaumes que dans les mains d'un mioche. Viens pas faire le show si t'as loupé le coche. Mets ta langue dans ta chatte ou garde-la dans ta poche. Bruxelles, ma belle, y'a trop de putes sur tes trottoirs. De jalousie en string tatoué, salopard. Pour une main franche, tu sers de main moite. Pour un gars qui marche droit, tu envoies de qui boite. Mais bon, soit. La vie est ainsi faite, je peux pas reprocher aux nazes de refouler leurs défaites. Les mecs me testent, et c'est pas de la parano. En soirée, en métro, en voiture, au mato. Ils veulent ma chute, que je reste en seconde zone. Les regards me transpercent comme la couche d'ozone. Frérot, je reste humble, mais si tu me la joues back, chiche, alors je te baise et te jette comme une bitch. Ils voulaient mettre de la crème dans mon café noir pour qu'il vire à R&B que je reste sur le trottoir. J'ai pas besoin de vos thèmes, de vos faux soirées stars, de vos vieilles pisses en boire, d'un rap en costard. J'aime pas les bains de foule, les clubs pleins de blondes qui s'accrochent à tes poules jusqu'à ce qu'elles fondent. Entre nous y'a un monde, une culture, des valeurs. J'ai vu à la seconde où tu m'as demandé l'heure. Quoi de neuf, cousin? Au fond t'en as rien à battre, c'est pas dans le rap que t'excelles, mais plutôt dans le théâtre. Dans chaque boîte y'a 6 packs de Lil Kim, un Eli, un Biggie. Ces soirées déguisées mais sans les confettis. Chercher à lever une meuf en 2 minutes, c'est comme chercher de la chaleur dans les bras d'une pute. Certains se donnent corps et âme, collectionneuses d'hommes. Plus de fils dans leur vie que sur l'atomium. Dans ma ville comme chez Léon, les moules sous les néons s'affolent. Pour 20 euros passe à la casserole. Les traves font la file en dessous de Belgacom. Pendant que les putes de luxe se font mettre sans condom. Viens faire un tour ici, prends le taxi. L'anorexie se veut sexy en parésie. De la place du jeu de balle à la place de Brooker. Y'a des transfusions de cam et de situations précaires. T'habites un bunker, on appelle ça un loft. Valeur immobilière pour ceux qui se croient à New York. Les quartiers pauvres sont rachetés par les branchés. Et si t'as pas de thune, débarrasse le plancher. L'inflation fait les cardiaques, le travail au black. Les putes, les macs, les flics qui se donnent en spectacle. Viens dans ma ville, voyage au cœur de l'Europe. Mais n'oublie pas ta thune ou bien tu crèves comme une salope. Bitches like you ain't shit to me. La 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 la
son se propage dans l'air sous forme d'ondes de pression. Pour devenir une information intelligible par le cerveau, ces ondes mécaniques doivent être converties en signaux électriques, appelés aussi influx nerveux. C'est l'oreille qui joue ce rôle.
Principe actif, 102.4 FM.
Inye wanga kalando.